Fabien Le Cloarec, Benjamin Moreau, bonjour.
Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver en direct, et ce jusqu'à midi. C'est ainsi qu'ensemble nous allons pouvoir assister à l'agenda des associations. À cet égard, vous représentez l'une d'entre elles, vous voulez communiquer sur une prochaine manifestation que vous organisez, et ce, quelle qu'en soit la nature, à partir du moment où elle est ouverte à tous, cette manifestation, n'hésitez pas à en faire part à Christelle Mapama qui vous écoutera au bout du 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Alors que dans un instant, et jusqu'à 11h, en direct, je vais recevoir Laurence Ligier. Elle est la directrice de l'association Caméléon. Il est bien évident que, si vous voulez participer à l'émission, là encore, une voix se fera entendre, votre voix pourra se faire entendre au bout du 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Je vous souhaite une très belle matinée avec nous. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec l'association Caméléon et Laurence Ligier, qui la dirige, a bien du mérite d'être parmi nous, car elle n'est pas toujours en France. Elle vogue souvent entre la France et les Philippines. Alors, on l'a saisie au vol. Merci, Laurence, d'être avec nous.
Merci à vous.
De consacrer un petit peu de votre temps. Je sais que l'association Caméléon vous est chère. C'est vous qui l'avez créée.
Oui, je l'ai créé en 1992 et sur demande des Philippins, j'étais partie en mission humanitaire, j'avais juste 18 ans et vraiment je ne pensais pas passer 16 ans de ma vie là-bas et voilà.
Ah oui, à 18 ans, vous avez décidé pratiquement de créer l'association à partir du moment où vous avez connu les Philippins.
Mais je suis partie en mission humanitaire comme beaucoup de jeunes en chantier de construction et sur place j'ai rencontré des gens super et voilà.
C'est ça. Vous êtes partie en chantier, vous êtes revenue enchantée.
Exactement.
En gros. Alors, qu'est-ce que l'association Caméléon ?
L'association Caméléon vient en aide aux jeunes filles victimes de maltraitance et d'abus sexuels et principalement des cas d'inceste.
Il y en a particulièrement beaucoup aux Philippines ?
Malheureusement, oui. Alors, dire pourquoi, c'est compliqué.
J'imagine qu'il y a plein de...
Oui.
Ça tient une partie peut-être de la culture. Je sais pas si je me trompe, vous me dites, hein.
La culture, la pauvreté, les familles désunies, les mères qui travaillent beaucoup à l'étranger, qui partent et la promiscuité, plein de choses.
Ouais. Tout s'en mêle, quoi.
C'est ça.
Alors, vous partiez à 18 ans. Vous revenez, vous avez encore 18 ans, 19 ans.
Oui, je suis partie 2 mois et puis encore 2 mois et puis encore 1 an et puis voilà.
Et là, vous vous dites, il faut vraiment faire quelque chose parce que sur place, c'était vraiment voyant. Qu'est-ce que vous faisiez lors de cette mission humanitaire?
Alors, la toute première, j'étais partie avec des jeunes pour construire un atelier de tissage de fibres d'ananas. Vous voyez, non, un chantier de construction.
On est quand même un petit peu loin de
très loin
de ce dont on va parler. Et puis donc vous revenez, quand vous revenez, très vite vous avez vu l'étendue du désastre. Comment vous avez mis le doigt sur justement sur cette prostitution, sur ces abus sexuels des enfants,
c'est-à-dire
des tout jeunes?
Oui, les premières missions, j'étais jeune, j'avais jamais voyagé, j'ai vite été confrontée à la problématique des enfants dans la rue. Il y a 75% de la population aux Philippines qui a moins de 25 ans, donc les enfants, vous les voyez partout. J'étais étudiante en droit, vraiment, j'étais jamais partie, j'avais jamais fait de mission et ça m'a marquée. Sans pour autant vouloir créer quelque chose, hein. Ça c'est venu au bout de la troisième année parce que, troisième année, quand j'étais en mission dans les bidonvilles, confrontée à ce problème des enfants des rues, des enfants chiffonniers, des enfants abusés, des enfants en prison, des enfants, bon, voilà.
Là, on le voit très nettement.
On voit, ouais, c'est vraiment marquant. Et quand les Philippins vous disent, vous voyez, maintenant vous retournez dans votre pays, puis si vous pouvez nous aider, ça serait bien, parce que nous, on veut les sortir de la rue, ces gamins, mais on n'a pas d'argent. J'ai dit que j'allais essayer. Mais voilà.
Alors, on revient en France, et là, on décide d'essayer. Quand je dis on, c'est vous, hein, d'abord, ouais, qui portez l'idée à bout de bras. Pas trop de difficultés de convaincre des personnes autour de vous de vous aider à aider?
Si, c'est très difficile. Quand j'avais 19-20 ans, je cherchais 3,5 millions de francs français à l'époque.
Oui. Mais même à l'âge que j'ai, moi, je suis pas sûr que je trouverais 3,5 millions d'euros tout de suite, hein.
C'est énorme. Et les Philippines, personne connaît, ou alors on les connaît pour les catastrophes naturelles, les kidnappings et autres coups d'État. La problématique des enfants des rues ne passionne pas non plus tout le monde. Donc c'est vrai que c'est très, très difficile au début de démarrer, de parler d'un projet qui existe pas encore et de chercher des financements. J'ai dû me battre, oui.
Elle ne passionne pas parce qu'on est loin de ça, et puis nous, on connaît pas ça, fort heureusement. On sait la misère de certaines populations, mais on n'en est pas à ce que des enfants soient dans les rues et soient l'objet de ces exactions sexuelles, évidemment.
Mm-hmm.
Alors, Comment on fait? Finalement, on crie plus fort, on montre des photos, parce qu'il y a des photos, j'imagine,
oui,
je sais pas.
Oui, j'avais des photos, j'ai été partout en France, voir les associations, les fondations, les entreprises, et puis bon, c'est en Belgique, en fait, qu'on m'a écouté le plus. Je savais qu'il y avait des programmes, d'aide pour les ONG en Belgique. Et je suis allée au ministère de la coopération et puis voilà, j'ai défendu un projet que j'avais quand même monté, une étude de faisabilité de ce projet pendant 2 ans, quelque chose de solide, de sérieux, je savais de quoi je parlais. Et puis ils sont engagés sur 5 ans et ça m'a permis de démarrer en fait.
Alors on va savoir comment vous avez démarré, mais moi je voudrais vous poser une petite question subsidiaire qui m'a un petit peu titillé quand j'ai vu le nom de l'association. Pourquoi Caméléon ?
Pourquoi? Alors déjà, il n'y a pas de caméléon aux Philippines, donc au moins les Philippins retiennent le nom parce qu'ils me posent la même question. Mais c'est oui. Pas pour ça, c'était pour symboliser le changement, l'adaptation des filles qui viennent de la rue à une nouvelle vie, puisqu'on essaie de les aider, les transformer, leur donner un nouvel avenir, les aider à se reconstruire. Et elles changent vraiment, et physiquement, et dans leur vie. Quoi.
C'est ça, savoir s'adapter. Moi, c'est je pensais ça. Que c'était parce que c'était vous qui preniez la couleur camouflage pour justement mieux combattre ce banditisme-là. Parce que c'en est un.
Aussi, mais non, c'était plus pour symboliser les filles et pour l'association, pour dire qu'on avance doucement, que de temps en temps on bascule comme le caméléon, mais on tombe pas, quoi. On continue.
Alors cette association, elle a quel âge aujourd'hui ?
Elle a 12 ans.
12 ans, donc ça veut dire que ça a tenu au-delà des 5 ans. Les 5 ans, c'était pour démarrer. 3 millions et demi de francs, qu'est-ce qu'on fait avec 3 millions et demi de francs quand on part pour aider les jeunes filles philippines en grosse difficulté et en proie au banditisme sexuel, à ces exactions sexuelles?
Mais on cherche un terrain déjà. J'ai voulu que les Philippins participent, donc j'ai mis 6 mois et puis j'ai trouvé une ville qui m'a proposé un terrain. Puis avec argent, on a construit des centres d'accueil puisqu'il n'existait rien pour ces jeunes filles.
Laurence Ligier est avec nous. Elle représente l'association Caméléon. Il est bien évident que si vous voulez donner de la voix, vous pourrez le faire via le 01 56 88 40 20. Nous sommes aujourd'hui avec Laurence Ligier. Elle est venue nous parler de son association dont elle est la directrice et qui s'appelle Caméléon. Alors, vous partez aux Philippines, vous revenez en France. Finalement, c'est la Belgique qui vous accorde vos premiers deniers pour trouver un terrain et pour, j'imagine, construire des choses, construire des édifices, histoire, j'imagine encore, d'y abriter les premières jeunes filles que vous allez aider à se sortir de ce banditisme sexuel, de ces exactions sexuelles qu'elles subissent. Aujourd'hui, l'association a 12 ans, donc des programmes ont été construits par vous et par ceux qui vous aident. Alors, quels sont ces programmes ?
Alors, on a 2 centres d'accueil avec 50 jeunes filles et même petites filles, puisqu'elles ont entre 5 et 16 ans.
5 et 16 ans, ça veut dire que vous les avez parfois sorties de la rue à 5 ans, avec les dangers qu'elles pouvaient même courir, même à 5 ans ?
Oui, je dirais même qu'on peut en prendre des plus jeunes. Bon, on a dû limiter l'âge pour qu'elles rentrent dans nos programmes, mais malheureusement, depuis la tendre enfance, beaucoup d'enfants sont abusés aux Philippines, au sein même des familles très souvent. C'est bien triste. Bon, et donc elles sont référées par les services sociaux philippins ou la police suite à ces maltraitances sexuelles, ces cas d'inceste, et nous on les prend en charge pendant 3 ans dans les centres d'accueil. Où là, elles ont tout de suite une aide médicale, parce que souvent elles sont blessées physiquement, puis une aide psychologique, vous imaginez bien les traumatismes vécus, voire une aide pédopsychiatrique, parce que certaines sont en grande dépression. Puis on les remet à niveau scolaire pour les envoyer à l'école, dans des écoles publiques, ça c'est par choix, pour les mélanger à d'autres enfants, garçons et filles. Et puis il y a une aide légale, puisque on va dire 60% d'entre elles sont en procès contre leurs agresseurs, des procès qui durent très longtemps, 5 à 8 ans, donc l'association les aide grâce à des avocats et les services sociaux.
Il faut une sacrée belle aide, parce que quand on en est à porter plainte contre ses parents et qu'on est tout jeune, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas.
Oui, c'est très très lourd, et je dirais ce traumatisme-là, de se sentir coupable, de mettre son père en prison, son beau-père, son oncle, son frère, est beaucoup plus long à guérir. Pour ces enfants-là, bon, à partir du moment où elles ont justice, c'est les reconnaître comme victimes, et c'est très important dans leur processus de reconstruction, mais effectivement, elles portent cette culpabilité de mettre leur père en prison, et la mère et les frères et sœurs qui leur font porter ça. C'est lourd. Et donc l'association bah, les aide aussi de ce côté-là pour les préparer. Hein. C'est très traumatisant de se retrouver en face de son violeur pendant les procès qui sont difficiles.
À plus forte raison quand le violeur fait partie de la famille.
Tout à fait. Voilà. Et puis bon, il y a plein de programmes en fait qui ont pris leur importance au cours des années, qui sont extrascolaires, des programmes.
Je voudrais qu'on parle d'abord de ces programmes scolaires et surtout de la façon dont ils sont vécus ces programmes, qu'on comprenne bien. Pendant que les enfants sont remis à l'école en milieu ordinaire, ils logent où ? Parce qu'évidemment, on les remet pas entre les mains de ceux qui les ont violés, bien sûr. Ça veut dire que vous les prenez en charge pendant tout ce temps-là. Comment ça se passe ?
Oui, c'est ça. Elles sont prises en charge totalement dans les centres d'accueil, donc où elles vivent, où elles dorment, mangent. Bon, souvent elles sont malnutries, donc on a un menu spécial pour elles. Puis on les envoie à l'école. Elles sont toutes parrainées par principalement des Français, mais des gens de partout dans le monde qui prennent en charge leur scolarité chaque mois. Bon, ça coûte 26 euros. Et puis bon, les parrains les encouragent, les motivent pour aller au bout de leurs études. Donc,
alors les parrains, ils ont des liens privilégiés avec ces enfants ou simplement à partir du moment où on est parrain, on sait qu'on va parrainer un enfant grâce aux 26 euros qu'on va donner mensuellement à l'association.
Oui, les parrains nous contactent. Après, ils choisissent pas leur petite fille. Non, c'est pas sur photo, c'est pas ça. On n'aime pas trop ça. Donc,
d'accord, c'est pas votre façon de fonctionner.
Non, après ils peuvent préférer une petite, on va dire entre 5 et 10 ans, ou une plus grande en fonction de... Si eux ont des enfants, c'est toujours bien aussi d'avoir cet échange entre les enfants d'ici et les enfants de là-bas, par courrier, puisque les filles écrivent à peu près tous les deux mois en anglais, puisque c'est la langue officielle aux Philippines. Il y a
quand même un lien avec le parrain. C'est-à-dire le parrain, il ne parraine pas une petite fille. Il sait qu'il va parrainer une petite fille grâce aux 26 euros qu'il va donner, mais il ne sait pas forcément laquelle. Là, il sait quand même.
Oui. Le parrain reçoit le dossier de l'enfant, donc avec un petit historique de son passé, bien sûr, une photo, sa situation familiale. Mm-hmm. Et puis, un échange qui s'établit entre le parrain et l'enfant, par courrier principalement. On a de plus en plus de parrains qui partent sur le terrain voir l'enfant, donc ça c'est super hein, pour l'enfant de voir son parrain du bout du monde qui débarque et qui prend le temps de passer, d'être avec elle.
Ouais. C'est bien parce que ça recrée un lien familial. Parce
tout
que est-ce qu'on a la possibilité dans les centres d'accueil où vous les hébergez, où vous les accueillez, est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir comme un lien familial malgré tout ?
Oui, alors ça, on y veille, bien sûr. On travaille en parallèle avec la famille. Quand on dit famille aux Philippines, c'est au sens élargi, c'est-à-dire que si les parents sont défaillants, il y a souvent, pas toujours, mais bon, une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante, frère, sœur, enfin, avec qui on peut travailler, puisque le but quand même de l'association, c'est de réintégrer l'enfant dans sa famille au sens élargi au bout de 3 ans. La plupart des filles ont été réintégrées. Il arrive évidemment pour des raisons de sécurité, hein, de danger, de menace de mort, qu'on ne réintègre pas à l'enfant. Mais bon.
Dans la plupart du temps, ouais. À partir du moment où vous pouvez le faire, vous le faites.
Voilà, tout à fait.
Laurence Ligy est avec nous. Elle représente l'association Caméléon. Et si vous voulez participer à l'émission, 01 56 88 40 20. Aujourd'hui, c'est Laurence Ligier qui est venue nous parler de l'association Caméléon. Alors, nous sommes en train d'évoquer ces programmes scolaires que vous organisez pour ces enfants, pour ces filles de 5 à 16 ans que vous rattrapez dans la rue ou parfois au sein de leur famille et qui ont été victimes d'exactions sexuelles.
Oui, alors on les envoie à l'école et on les suit, ça c'est important, jusqu'à la fin de leur scolarité. C'est-à-dire que maintenant, sur 240 enfants, suivis par l'association et parrainés par un Français principalement, 65 sont déjà à l'université et l'association est là jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante financièrement.
Ah ça, c'est une belle victoire, et pour elle et pour vous, hein.
Mais oui, c'est l'image, c'est qu'elles volent de leurs propres ailes. Donc si la famille est défaillante, Caméléon est là, mais pas pour toujours, quoi. Voilà. Uh-huh.
Oui, donc c'est bien que de leur donner des armes, effectivement. C'est d'ailleurs c'est ce pourquoi vous les rattrapez, c'est ce pourquoi vous les accueillez, bien sûr. C'est pour leur donner des armes pour se battre.
On leur donne des armes pour se battre, pour se reconstruire, pour prendre confiance en elles, parce qu'elles ont des capacités, des talents, et on est juste là pour les développer.
Alors il y a les programmes scolaires et il y a d'autres programmes également.
Il y a des programmes liés autour du sport et de l'art qui ont des résultats très intéressants et plus ça va, plus on amplifie ces programmes. Alors on utilise l'art, le théâtre, la danse, le chant, la peinture, toutes ces choses qui permettent aux filles de se concentrer, de s'exprimer, de réaliser quelque chose dont elles sont fières. Et depuis 5 ans, on travaille beaucoup autour des arts du cirque. Alors au début de façon pédagogique, puis psychologique, on dira, thérapeutique, ça les aide vraiment à le fait de se mettre en scène, de faire des spectacles, de montrer ça à leurs parents, puis aux communautés, puis aux parrains, puis même maintenant à l'étranger, puisqu'on a 4 filles qui sont là en insertion professionnelle à l'Académie Fratellini pour devenir artistes de cirque.
Ah oui, là c'est autre chose, hein. Là, on passe à la vitesse supérieure.
Voilà, hein, voilà. Elles croient en elles. Elles sont trapézistes. Elles font du trapèze volant. Et bon, elles démarrent, hein. Mais pour ben, dire que, voilà, en partant de
j'allais dire
de
qu'elles
la
sont
rue,
déjà bien parties. Elles ont déjà commencé par se rattraper elles-mêmes, hein, au départ. C'était pas évident. Certes, vous les avez aidées, mais il fallait aussi une sacrée dose de d'énergie et de pour arriver à se rattraper elles-mêmes. Et là, visiblement, elles concrétisent.
Ben oui, elle concrétise grâce à l'effort de tous, de cirque partenaires dans l'Académie Fratellini, de nos partenaires qui ont financé le voyage. Et bon, ce rêve pour ces filles-là devient réalité. Mais je dois dire qu'elles sont aussi les ambassadrices des autres filles, des 200 filles qui sont restées aux Philippines, qui les regardent et qui sont c'est des modèles pour elles. Donc c'est très important, elles portent ça, ces 4 filles ici en France.
Alors justement, c'est exceptionnel ou vous avez l'intention chaque année, ou je ne sais pas quelles seront les modalités, de faire venir quelques-unes de ces filles comme ça en France ou dans d'autres pays étrangers qui seraient vos partenaires?
En fait, on a l'intention là pour cette année 2010 de créer une école de cirque aux Philippines. On a déjà l'infrastructure, maintenant on va essayer de la développer pour que les 4 filles là qui retourneront aux Philippines puissent former les autres filles, et puis qu'on forme des formatrices en fait qui iront dans les écoles, qui iront dans les grandes surfaces, qui iront à droite à gauche pour former des enfants, parce qu'il y a une demande, il y a une demande aux Philippines. Et voilà, le but c'est pas que toutes les filles viennent en France, bien sûr les meilleures, pourquoi pas leur offrir cette opportunité. Et puisqu'on est en partenariat avec le Cirque Zanzibar et l'Académie Fratellini, on continue, mais bon, le but c'est quand même qu'elles soient autonomes et qu'elles travaillent aux Philippines dans leur pays.
Et toutes ces filles qui se dirigent vers les arts sont intéressés pour faire de ces arts justement une passerelle pour une insertion professionnelle.
Quand elles ont un talent et qu'elles ont la motivation pour, parce que c'est difficile hein, de devenir artiste de cirque, bien sûr l'association les pousse là-dedans. Pour celles qui préfèrent terminer des études d'infirmière, de professeur, de je sais pas, d'assistante sociale, eh bien on est là aussi grâce aux parrains pour aller jusqu'au bout.
C'est-à-dire que ces programmes que vous organisez, qui concernent les arts, qui concernent les sports, ce sont des programmes extrascolaires et qui font que ces personnes, ces jeunes filles peuvent s'exprimer, même devenues jeunes femmes, j'imagine, puisque vous les suivez, elles peuvent s'exprimer tout en poursuivant une activité professionnelle pour laquelle vous avez organisé justement tout l'accueil.
Oui, c'est ça. On les met en scène, enfin pour celles qui le souhaitent. Hein, elles organisent à travers les arts du cirque des spectacles qui tournent aux Philippines. Bon, certains tournent en France avec les 4 qui sont là, mais en tout cas aux Philippines. Et le fait de se mettre en scène pour cette jeune fille, c'est prendre confiance en elle, utiliser leur corps, on dira qu'elle détestait, hein, vu leur passé.
On imagine.
Pour faire quelque chose de beau qui émerveille d'autres personnes, des enfants, des adultes, et vraiment on voit des résultats très très intéressants à ce niveau-là.
Et ces jeunes filles devenues jeunes femmes, elles s'organisent autour de quelle profession en général?
Il y en a beaucoup qui vont dans l'hôtellerie, la restauration, pour les plus brillantes, infirmières ou aides médicales, éducation, vers l'informatique également, ou vers des formations techniques.
Donc étonnamment, pas mal de métiers publics. Et j'allais dire, elles pourraient justement avoir peur du public en général. Et vous avez tellement réussi à les rattraper, à les reconstruire, qu'à leur tour, elles sont décidées à faire soit dans le public, soit dans le social.
Effectivement, souvent elles veulent aider les autres. Elles veulent avoir un métier pour se prendre en charge, mais quand elles peuvent aider les autres, bon, je suppose que c'est par leur passage à Caméléon qu'elles ont envie de faire ça. Maintenant, on ne veut pas les embaucher à Caméléon parce que il faut pas aussi que ce centre devienne leur famille, leur vie pour toujours. Bon, ça, on veut pas les cantonner à cette problématique des abus sexuels. Il y a un moment, faut voilà, c'est du passé, faut aller de l'avant et on les aide juste à s'envoler.
Aujourd'hui, Laurence Légier est avec nous. Elle est venue nous parler de l'association Caméléon. Si vous voulez donner de la voix, poser des questions, transmettre des suggestions, 01 56 88 40 20. Laurence Légier est à notre micro. Elle est venue nous parler de l'association dont elle est la directrice, l'association Caméléon. Alors, Caméléon est géré essentiellement par les Philippins aujourd'hui?
Oui, alors ça, pour moi, c'est le succès de l'association. C'est-à-dire que j'ai passé 12 ans sur le terrain à travailler avec une équipe. Maintenant, ils sont 23 salariés philippins et ils gèrent entièrement l'association avec une directrice philippine, un conseil d'administration philippin. Et pour moi, c'est vraiment ça, le développement. C'est-à-dire que c'est, pour que l'action soit pérenne, il faut que les Philippins s'approprient ce projet. Et donc, je suis rentrée en France pour chercher des financements, communiquer. J'ai un autre rôle maintenant, voilà.
C'est ça. Et puis les Philippins connaissent bien leur terrain et ils savent comment lutter. Bon, ils ont toutes les armes pour ça.
Mm-hmm, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, fallait leur faire confiance et voilà. Bon, après, ça fonctionne pas comme comme quand j'étais sur le terrain, bien sûr. Donc, je retourne de temps en temps pour travailler avec eux sur le développement de l'association, la stratégie. Mais bon, il faut accepter que ce soit géré différemment.
Et vous, vous êtes en France justement pour faire que les finances également soient pérennes.
Ben oui, parce que l'association, malheureusement, je dirais, a grossi au cours des années. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont été référés. Voilà. Ouais. Et donc, on a un budget 500 000 euros à générer par an, et c'est énorme. Et en étant au milieu de la jungle ou des bidonvilles, là-bas, c'était très difficile pour moi de mobiliser des donateurs, des entreprises. Donc, je suis revenue en France pour en parler, pour aller à droite à gauche, faire des dossiers et trouver des parrains pour parrainer toutes ces petites filles chaque année.
On va reparler de ces parrains, bien sûr, parce qu'ils sont importants hein, dans l'association. Mais comment les petites filles arrivent-elles jusqu'à vous, jusqu'aux Philippins aujourd'hui ?
Elles sont référées par les services sociaux philippins qui ont accrédité l'association, hein, bien sûr. On ne peut pas s'occuper d'enfants mineurs comme ça sans accréditation, et heureusement.
Et heureusement, ce ne serait pas la peine de rajouter un drame à celui qu'elles connaissent déjà.
Tout à fait, oui. Donc, on a un programme qui est contrôlé chaque année et les services sociaux envoie les petites filles pour un placement sur le long terme chez
c'est
nous.
C'est ça. Ça veut dire qu'il y a personne sur le terrain, enfin, de l'association vraiment, qui, j'allais dire, drague les bidonvilles, qui va dans les rues de Manille ou qui, ou dans les autres endroits de Philippines pour savoir s'il y a des petites filles en danger.
Non, ça c'est le rôle de la police et des services sociaux publics philippins. Après,
voilà, qui ont accrédité l'association.
Tout à fait.
Alors, vous êtes en France, justement, pour dire, des parrains, notamment, hein, pas uniquement pour ça, bien sûr, parce que sinon, vous n'auriez pas tout votre temps pris comme vous l'avez, mais pour dire également, on a besoin de parrains.
On a besoin de parrains chaque année, parce que l'association donc réintègre des filles dans leur famille ou dans des chambres d'étudiantes pour les plus grandes, et donc laisse place à de nouvelles filles dans les centres chaque année. Et là, on va accueillir 21 nouvelles jeunes filles, le mois de mars, avril, mai. Et donc, on recherche...
Ça veut dire qu'il faut au moins 21 parrains.
C'est ça. Et je voulais dire aussi que c'est, oui, 26 euros par mois, mais c'est considéré comme un don, donc c'est déductible à hauteur de 66% chaque année. Donc, il y a des reçus fiscaux et donc ça revient pas
ça
à
revient
trop,
pas.
Trop cher.
Voilà, voilà, c'est ça. Et ça veut dire que 26 euros, c'est la mise minimum, mais on est tout à fait libre, et bien sûr, de donner plus si on le désire et si on le peut.
Il y a trois sortes de parrainage en fonction du niveau scolaire de l'enfant, parce qu'en faculté, c'est plus cher. Donc, on est à 26, on est à 40 ou à 48 euros par mois. C'est un choix des parrains.
Il y a des parrains qui suivent justement la scolarité de ces gamines et qui, au début, ont connu une enfance, je ne sais pas, de 8 ans ou plus jeune, et puis qui, aujourd'hui, parrainent toujours cette petite fille qui est devenue grande.
Oui, alors on a de la chance, vraiment, les parrains s'engagent. C'est pas juste un don, ils s'engagent vraiment sur la scolarité de l'enfant. C'est pas une obligation, on demande à ce qu'ils s'engagent au moins sur un cycle scolaire, primaire ou secondaire. Mmh. Mais bon, ils s'engagent en général sur 8 ans, 10 ans, et le lien affectif est fort entre l'enfant et le parrain. Et puis quand la jeune fille termine ses études, il y a certains parrains qui acceptent de prendre une nouvelle jeune fille.
Vous arrivez à reconstruire tellement bien ces jeunes filles que, en général, l'échec scolaire, il est quand même plutôt loin d'elles. C'est vous constatez une vraie réussite scolaire.
Mais on a des filles qui ont parfois 4, 5, 6 ans de retard parce qu'elles ont été maltraitées, séquestrées, enfin, vous voyez, le passé.
Oui, elles ne connaissaient même pas l'école, peut-être, même
voilà,
pas certaines.
Voilà, pour certaines, pas lire, pas écrire. Donc, à partir du moment où on leur donne la chance d'aller à l'école, bon, c'est pas comme les enfants français. Au contraire, pas d'école buissonnière, elles pensent qu'à aller à l'école quand elles sont absentes pour aller à leur procès. Ça. C'est une catastrophe pour elles parce qu'elles veulent pas être absentes, elles veulent terminer leurs études. Pour elles, c'est l'école, c'est primordial.
Elles savent que l'école, c'est le savoir et le savoir, c'est la liberté. Nous, on a un petit peu oublié ça parce que bon, on est à l'écart heureusement, hein, de ces drames dont vous parliez tout à l'heure.
Ah oui, c'est ça. Puis elles saisissent leur chance. C'est des survivantes, ces filles. Donc, on leur donne l'opportunité, elles la saisissent et elles la laissent pas passer, quoi. Donc, elles vont au bout.
Donc, à partir du moment où elles connaissent la scolarité, elles n'entendent surtout pas manquer un jour d'école, à partir du moment où c'est possible.
C'est important.
Donc, les parrains sont les bienvenus.
Oui, appel aux parrains, appel aux bénévoles qui veulent nous aider, surtout en France, à organiser des événements, à nous aider au quotidien au bureau. Là, on a un bureau dans le 14e.
Alors, j'entends des bénévoles potentiels qui vont être un petit peu déçus parce que, bon, certains d'entre eux se disent, moi, si je suis bénévole de l'association, j'entends aller aux Philippines, tant qu'à faire. C'est possible, ça, ou pas?
Alors, l'association accueille chaque année à peu près 35 bénévoles sur le terrain, qui viennent pas tous en même temps, hein, qui partent pour des missions d'un à trois mois, des missions très spécifiques, principalement d'animation pendant les vacances scolaires des filles, qui sont en avril et au mois de mai, mais aussi des chantiers de construction, des missions plus sur l'informatique, la formation du personnel, des missions médicales. Ce sont des missions bénévoles, hein, voilà.
Laurence Ligier est avec nous. Elle représente l'association Caméléon. Nous la retrouvons dans quelques notes de musique. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie de Laurence Ligier. Elle est venue nous parler de l'association Caméléon. Alors, vous ne vous contentez pas de dire qu'il vous faut des parrains. Vous faites tout, vous mettez tout en œuvre pour que vous arrivent des espèces sonnantes et trébuchantes.
Bah oui, hein. Comme toutes les associations, on a besoin de financement. Et heureusement que les donateurs, petits comme mécènes, sont là. Et tous les dons sont déductibles.
C'est ça. Alors on parlait des parrains tout à l'heure, mais évidemment les partenaires, autres partenaires qui ne voudraient pas forcément parrainer, mais qui se sentent dans les possibilités de mettre la main à la poche, sont les bienvenus évidemment.
Évidemment, on a besoin de faire tourner tout ça, les programmes, les 23 salariés aux Philippines, les 4 salariés ici en France, et tous les 4 filles qui sont ici en formation. Enfin, vous imaginez bien que, voilà, on a besoin de vous.
Et alors, justement, il y a des programmes festifs qui s'annoncent pour ça, notamment.
Alors oui, on organise une série d'événements tout au long de l'année, mais là, les prochains à venir, on va dire le 7 janvier, les 4 filles feront un spectacle de cirque. Elles font partie du spectacle Andy Cirque, qui est organisé par le Cirque Pinder. Donc ça, c'est un grand truc et c'est ouvert au public. D'accord. Après, le 6 février, l'association organise une réunion justement spéciale sur le parrainage, où j'interviendrai pour expliquer, voilà, comment devenir parrain, qu'est-ce qu'il faut faire.
Alors ça, c'est ouvert à tout le monde, on imagine, hein?
Ouvert à tout le monde, sur Paris, oui.
Sur Paris. On en reparlera de toute façon dans l'agenda, mais il faut bien appuyer sur le fait que le 6 février, vous accueillerez en vos locaux, j'imagine?
On va trouver une grande salle. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde.
Grand.
Voilà.
D'accord.
Alors, sur Paris et le 13 mars, pardon, en province, en Bourgogne, puisque l'association a son siège social en Bourgogne. On n'est pas que à Paris.
D'accord. Très bien.
Et puis le 7 mars, on sera sur le semi-marathon de Paris et le 11 avril sur le marathon de Paris. Donc là, à nouveau, on a besoin de mobilisation de gens, de coureurs et de plein de bénévoles qui nous aident à organiser tout ça.
Très bien. On reviendra, vous reviendrez bien sûr en tous les cas, ne serait-ce que par téléphone pour nous dire tout ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur l'association que vous souhaitiez qu'il soit dit, hormis les coordonnées que nous donnerons évidemment à la fin de l'émission?
Bon, que l'association, par exemple, va passer pour la 3e fois envoyé spécial au mois de janvier, fin janvier ou début février, on n'a pas encore la date. Donc ça nous aide vraiment à communiquer sur nos programmes parce qu'on est un peu loin de tout le monde. Et puis,
Ces bénévoles dont vous nous parliez tout à l'heure qui peuvent aller sur le terrain, il faut les former quand même préalablement.
Alors effectivement, les bénévoles partent, en général, ils ont une formation professionnelle, ils apportent un savoir-faire que les Philippins n'ont pas, hein, et réclament. C'est pas moi qui envoie comme ça tout le monde, plein de gens. Et c'est moi qui les forme qui les oriente, qui forme à la mission spécifique et qui débriefe au retour ici à Paris.
Quel type de formation vous prodiguez à l'adresse de ces bénévoles?
Je leur parle beaucoup du pays, de la culture, voilà. Et après, et de la mission en elle-même, beaucoup plus spécifique, hein, par rapport au nombre d'enfants qu'ils auront, pendant combien de temps, ce qu'on attend d'eux, parce que chaque mission a un objectif précis, voilà. Et puis après, bon, tout ce qui est plus administratif, hein, les billets d'avion, l'assurance, les vaccins, tout ce qu'il y a à faire pour partir, et puis se préparer. Il y a un questionnaire assez poussé pour réfléchir sur sa mission, se mettre en situation. On part pas comme ça au bout du monde avec son sac à dos en disant je vais aider. Voilà, c'est très prétentieux. Et si on n'est pas formé, et si on n'est pas préparé, ça, c'est même catastrophique.
On n'en parle pas assez souvent, mais quelles sont les qualités qu'il faut avoir quand on décide d'être bénévole et surtout quand on veut partir sur un terrain comme celui des Philippines?
Des qualités professionnelles, de la patience et de la tolérance, parce que c'est pas nous qui imposons notre façon de faire, hein, bien sûr. On s'adapte à la culture et souvent on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne, donc faut être humble.
Ça, vous le disiez tout à l'heure, vous disiez, je suis revenu en France, maintenant que je sais que ça tourne, même si ça ne tourne pas tout à fait de la façon dont j'aimerais que ça tourne, ça veut dire que c'est dû à la culture, c'est dû quoi? À une plus grande lenteur, c'est quoi? Quelles sont les pierres d'achoppement?
Oui, il y a une façon de travailler qui est beaucoup plus lente, là, les plannings qui changent beaucoup, mais aussi à cause des transports, des catastrophes naturelles, il y a plein de choses. Ils vivent beaucoup au jour le jour, ils ont du mal à planifier tout ça. Mais bon, on arrive à faire des choses extraordinaires, il y a des idées qui sortent, qui sont magnifiques, et pour que ça soit pérenne, tous ces projets, il faut vraiment les écouter et les aider à développer ce qu'ils ont eux envie de faire. Autrement, si on impose, ça marche pas.
Et puis on n'y pense jamais, mais qu'est-ce qu'on mange aux Philippines? Parce que bon, il faut savoir s'adapter à tout, il faut savoir s'adapter aux conditions de vie, conditions climatiques, et qu'est-ce qu'on va trouver qu'on ne trouvera pas en France, ou le contraire d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'on pourra pas manger qu'on mange en France, par exemple?
Voilà, beaucoup de choses, hein. Mais après on mange beaucoup de riz aux Philippines, bien sûr, 3 fois par jour, du poisson de façon séchée. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de viande rouge, ça c'est sûr. Faut pas partir pour ça, hein.
C'est important de dire ça, parce que on parle de l'adaptabilité, mais tout le monde ne s'adapte pas forcément au mode de nourriture, ou bon, il y a tout un fonctionnement qu'il faut savoir.
Ou au climat, parce qu'il fait 38 degrés en moyenne, et chaud, humide, donc ça.
Donc je n'irai pas, hein, tout de suite. je passe mon tour. Quelques suppléments d'informations qui vont consister à donner vos coordonnées.
Oui, bon, l'association a son siège social en Bourgogne, mais un bureau à Paris, et on est joignable au 01 43 22 35 92 ou sur le site internet www.caméléon.org.
Merci Laurence Ligier d'être venue nous parler de Caméléon, l'association Caméléon. Vous reviendrez ce soir à 20h, puis cette nuit à 0h, tout ça sur vivrefm.com.